Chapitre 2. Telles étaient la maison, le ménage et le commerce que laissait derrière lui M. Verloc ce matin-là, sur la pointe de 10h30. Il sortait rarement de si bon matin, et toute sa personne exhalait comme une fraîcheur de rosée. Il avait endossé, sans le boutonner, son pardessus de drap bleu. Ses chaussures reluisaient, ses joues rasées de frais avaient un éclat de neuf. Jusqu'à ses yeux qui, malgré les lourdes paupières, grâce aux bienfaisants effets d'une paisible nuit de repos, lançaient des regards plus vifs. À travers les grilles de Hyde Park, il regardait complaisamment le défilé des cavaliers. Des couples passaient, harmonieux, au petit galop de leurs montures. D'autres s'avançaient posément au pas de promenade. Des groupes de trois ou quatre flânaient. Des cavaliers se détachaient, solitaires, l'air rébarbatif. Et des amazones, seules aussi, étaient suivies à distance par un groom portant une cocarde à son chapeau et une ceinture de cuir sur sa tunique ajustée. Des attelages fuyaient, rapides, coupés à deux chevaux pour la plupart. Ça et là, une Victoria, une coiffure féminine émergeant d'une fourrure de bête sauvage au-dessus de la capote repliée. Et sur cette scène, le soleil si particulier de Londres, auquel on ne pouvait rien reprocher sinon de paraître injecté de sang, semblait monter la garde, ponctuel et bienveillant, à peine au-dessus de Hyde Park Corner. Le sol, sous les pieds de M. Verloc, avait une teinte vieillore. Dans cette lumière diffuse, où ni mur, ni arbre, ni homme, ni bête ne portaient ombre. M. Verloc cheminait vers l'ouest, à travers une ville sans ombre, dans une atmosphère poudrée d'or. Des rayons rouges, cuivrés, dessinaient les toits des maisons, les angles des murs, les panneaux des voitures, jusqu'aux robes lustrées de chevaux et au dos vaste du pardessus de M. Verloc, et laissaient partout comme un terne reflet de rouille. M. Verloc n'avait pas la moindre conscience de cette oxydation de sa personne. Il suivait d'un œil approbateur, à travers les barreaux de la grille, les témoignages du luxe et de l'opulence de la grande ville. Il fallait protéger tous ces gens-là. La protection est le premier besoin des privilégiés. Il fallait les protéger, et aussi leurs chevaux, leurs voitures, leurs maisons, leurs serviteurs. Et il fallait protéger la source de leur richesse au cœur de la cité et au cœur du pays. Il fallait protéger tout l'ordre social favorable à leur hygiénique oisiveté contre l'inepte envie de ceux qui peinent à des tâches malsaines. M. Verloc se serait frotté les mains de plaisir s'il n'avait été, par tempérament, ennemi de tout effort superflu. L'oisiveté n'était point chez lui commandée par l'hygiène, mais elle lui seyait parfaitement. Il lui vouait une sorte de fanatisme inerte, ou, si l'on veut, d'inertie fanatique. Né de parents besogneux, pour une vie laborieuse, il avait choisi l'indolence, poussé par un instinct aussi profond et aussi impérieux que celui qui guide la préférence d'un homme dans le choix d'une femme entre mille. Il était trop paresseux pour faire même un démagogue, un orateur ouvrier, un meneur de grève. C'eût été là trop de tourments. Il lui fallait une forme plus parfaite de bien-être, ou peut-être était-il la victime d'un doute philosophique quant à l'heureux aboutissement de tout effort humain. Une telle espèce d'indolence requiert et implique une certaine somme d'intelligence. M. Verloc n'était pas dénué d'intelligence, et à l'idée d'un ordre social menacé, il aurait eu sans doute à sa propre adresse un clignement d'œil s'il n'avait pas fallu un effort pour produire cette marque de scepticisme. Ses gros yeux proéminents ne se seraient jamais adaptés à cet exercice. Ils appartenaient plutôt à cette espèce d'yeux qui se ferme solennellement pour de majestueuses somnolences. M. Verloc, aussi imposant et peu démonstratif qu'un animal gras, poursuivait son chemin sans se frotter les mains de satisfaction, ni sans clin d'œil sceptique à ses pensées. Foulant les pavés sous le poids de ses bottes bien cirées, il avait les dehors d'un artisan prospère, travaillant pour son compte, quelque chose entre un encadreur et un serrurier, un petit patron occupant quelques apprentis. Mais il y avait aussi dans son air quelque chose d'indéfinissable qu'un artisan n'aurait pu acquérir dans la pratique même honnête de son métier. L'air qu'ont tous les gens qui vivent des vices, des folies ou des basses couardises du genre humain. L'air de nullité morale commun aux tenanciers de tripots, aux agents de renseignement et de police privée, aux débitants de boissons, je dirais même aux marchands de ceintures électriques pour rendre la vigueur aux affaiblis et aux inventeurs de prétendues spécialités médicales. Bien que, pour ces derniers, je ne puisse parler avec une entière certitude, n'ayant pas poussé à fond mes investigations dans ce sens. Pour autant que je sache, si leur physionomie avait quelque chose de parfaitement diabolique, je n'en serais aucunement surpris. Ce que je tiens surtout à affirmer, c'est que la physionomie de M. Verloc n'avait absolument rien de diabolique. Avant d'arriver à Knightsbridge, M. Verloc tourna à gauche, abandonnant la grande artère pleine de gens affairés, le tumulte des omnibus cahotants et des voitures de livraison, pour s'engager dans une rue calme que dérangeait seule la fuite rapide et presque silencieuse des hansoms. Sous son chapeau qu'il portait légèrement en arrière, ses cheveux étaient soigneusement brossés, lissés à souhait, car il se rendait à une ambassade. M. Verloc, ferme comme un roc d'espèce molle, suivait maintenant une voie qui, selon toute apparence, paraissait être une propriété privée. Par sa largeur, par sa libre étendue, elle avait la majesté de la nature inorganique, de la matière qui ne périt jamais. Le seul représentant de l'élément mortel était le coupé d'un médecin, rangé le long du trottoir dans une auguste solitude. Les marteaux polis des portes étincelaient à perte de vue, et les vitres bien frottées brillaient d'un éclat opaque et sombre. Tout était silencieux. Une voiture de laitier traversa bruyamment la perspective lointaine, et un garçon boucher, conduisant avec la noble insouciance d'un automédon aux Jeux Olympiques, tourna le coin de la rue, haut perché sur une paire de roues peintes en rouge. Un chat surgit d'entre les pierres, s'enfuit, l'air pris en faute, à l'approche de M. Verloc, puis disparut dans un soupirail. Et un gros policeman, sorti apparemment de quelques réverbères, surgit à son tour. Figure impassible, il semblait lui aussi faire partie du décor inorganique et ne prêta pas la moindre attention aux passants solitaires. Prenant encore à gauche, M. Verloc s'engagea dans une rue étroite bordée d'un mur jaune qui, sans qu'on sût bien pourquoi, portait en lettres noires l'inscription « Numéro 1, Chesham Square ». Or, Chesham Square était au moins à 60 mètres de là. Mais M. Verloc, assez cosmopolite pour ne pas se laisser prendre aux chinoiseries de la topographie londonienne, passa tranquillement sans ombre de surprise ou d'indignation. Grâce à sa persistance, il atteignit enfin le square qu'il traversa obliquement afin de parvenir au numéro 10. C'était le numéro d'une importante porte cochère qui s'ouvrait dans une autre muraille bien entretenue entre deux ailes d'habitation. L'une de ces ailes portait, avec raison d'ailleurs, le numéro 9, tandis que l'autre était numéroté 37. Mais on avait pris soin d'annoncer qu'elle appartenait à Port Hill Street, rue bien connue du voisinage, au moyen d'une inscription placée au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée par quelqu'une de ces autorités hautement compétentes à qui est confié le soin de conserver la trace des maisons égarées de Londres. M. Verloc ne s'inquiéta pas de ces incohérences, sa mission étant de protéger le mécanisme social et non de le perfectionner ou même de le critiquer. L'heure était si matinale que le portier de l'ambassade sortit précipitamment de sa loge en se débattant encore pour enfiler la manche gauche de sa livrée. Il portait un gilet rouge et des culottes courtes et paraissait légèrement ahuri. M. Verloc, qui s'attendait à cette attaque de flanc, la repoussa en exhibant simplement une enveloppe au sceau de l'ambassade. Le même talisman fit s'incliner le valet de pied qui ouvrit la porte du vestibule et qui s'effaça pour livrer passage. Un feu clair flambait dans la haute cheminée, devant laquelle, lui tournant le dos, un personnage d'âge respectable, en habit, une chaîne autour du cou, la figure calme et grave, tenait à deux mains un journal grand ouvert. Il leva les yeux sans changer d'attitude. Un autre valet, en livrée, à culotte brune et frac à basque pointue, bordé d'un mince galon jaune, s'approcha. Au murmure du nom du visiteur, il pivota sur ses talons et s'éloigna en silence. M. Verloc le suivit par un couloir du rez-de-chaussée qui filait à gauche du grand escalier garni de tapis jusqu'à un petit cabinet meublé d'une lourde table et de quelques chaises où on le laissa seul. Il resta debout, son chapeau et sa canne d'une main et de l'autre caressant ses cheveux tandis qu'il regardait autour de lui. Une porte s'ouvrit sans bruit. M. Verloc, immobilisant son regard dans cette direction, ne vit tout d'abord qu'un costume noir, un crâne chauve et des favoris gris retombant de part et d'autre derrière deux mains ridées. Le nouveau venu tenait devant ses yeux une poignée de paperasses, et il s'avançait vers la table à petits pas, sans cesser de tourner et de retourner ses papiers. Le conseiller privé Wurmt, chancelier d'ambassade, était très myope. Ce fonctionnaire, déposant ses papiers sur la table, découvrit une face bouffie d'une laideur mélancolique, encadrée de longs et fins poils gris et barrée d'épais sourcils. Il chaussa d'un lorgnon à monture d'écaille son nez court et uniforme, et sembla tout à coup s'apercevoir de la présence de M. Verloc. Derrière les énormes sourcils, les yeux usés clignotèrent d'une manière pathétique. Mais le personnage ne donna aucun signe de bienvenue. M. Verloc, qui certainement savait se conduire, ne bougea pas davantage. Il modifia seulement la ligne générale de ses épaules et de son dos, jusqu'à laisser deviner une subtile incurvation de l'échine sous la vaste surface de son pardessus, ce qui lui donna le maintien de la plus modeste déférence. La voix du fonctionnaire s'éleva, douce et basse contre toute attente. « J'ai là quelques-uns de vos rapports, » dit-il, en appuyant fortement le bout de son doigt sur le tas de papier. Il se tut, et M. Verloc, qui avait très bien reconnu sa propre écriture, attendit dans le plus profond silence. « Nous ne sommes pas très satisfaits de l'attitude de la police ici, » continua le fonctionnaire avec toute l'apparence d'une grande fatigue intellectuelle. Les épaules de M. Verloc, sans bouger réellement, esquissèrent un léger haussement. Et pour la première fois ce matin, depuis qu'il était sorti de chez lui, ses lèvres s'ouvrirent. « Chaque pays a sa police, » formula-t-il philosophiquement. Mais sur un clignement plus direct du secrétaire à son adresse, il s'empressa d'ajouter « Permettez-moi de remarquer que je n'ai aucun moyen d'action sur la police ici. » « Ce que nous désirons, c'est la manifestation d'un fait précis qui stimulerait sa vigilance. C'est de votre ressort, n'est-ce pas ?» M. Verloc n'eut d'autre réponse qu'un soupir, qui s'exhala malgré lui, car au même instant il s'appliquait à conserver une physionomie enjouée. Le fonctionnaire cligna de plus belle, comme affecté par l'obscurité de la pièce, et avec l'air de répéter une leçon, il reprit « L'indulgence coutumière à la magistrature de ce pays et l'absence totale de mesures répressives, tout cela est un scandale pour l'Europe. Ce que nous voulons, c'est que l'élément révolutionnaire qui fermente en certains milieux soit rendu manifeste pour les plus aveugles. Vous ne me direz pas, j'imagine, que cette fermentation n'existe pas. Elle existe, attesta M. Verloc, révélant soudain les sonorités d'une belle voix de basse, contrastant si fort avec le ton de ses premières paroles que son interlocuteur s'arrêta tout surpris. Elle existe, à un degré dangereux même. Mes rapports des 12 derniers mois l'indiquent assez nettement. Vos rapports des 12 derniers mois, reprit le conseiller d'État Wurmt, du même ton impassible, je les ai lus. J'en suis encore à me demander pourquoi vous les avez rédigés. Un silence glacial régna pendant quelque temps. M. Verloc semblait avoir avalé sa langue. Le conseiller regardait fixement les papiers posés sur la table, puis les repoussant légèrement, « La situation que vous exposez là n'est que la cause première de votre utilité. Il nous faut à présent autre chose que des grimoires, la réalisation d'un fait distinct, significatif, je dirais presque d'un fait alarmant. Je n'ai pas besoin d'affirmer que tous mes efforts tendront vers ce but, » commença M. Verloc, avec, dans sa voix rauque, des modulations qui exprimaient un acquiescement. Mais il eut la sensation déconcertante d'être dévisagé de l'autre côté de la table par un œil perspicace, quoique myope, et il s'arrêta court avec un geste d'absolue soumission. Le conseiller Wurmt semblait être sous l'impression de quelque fâcheuse découverte. « Vous êtes bien corpulent, » déclara-t-il enfin. Cette observation, inspirée par une réelle perspicacité psychologique et jetée d'une voix hésitante, avec la modestie qui convient aux fonctionnaires familiers avec la paperasserie, plus qu'avec les tracas de la vie active, piqua M. Verloc comme un reproche personnel désobligeant. Il fit un pas en arrière et d'une voix lourde de vexation, « Pardon, vous dites ?» Le chancelier que l'on avait chargé de cette entrevue eut soudain l'air de trouver la tâche au-dessus de ses moyens. « Je pense, dit-il, que vous feriez mieux de voir M. Vladimir. Oui, décidément. Il faut que vous voyiez M. Vladimir. Veuillez attendre un instant. » À ces mots, il disparut à petits pas, comme il était entré. M. Verloc se passa la main sur les cheveux. Quelques gouttes de sueur perlèrent à son front, et il laissa échapper sa respiration entre ses lèvres pincées, comme un homme qui souffle sur une cuillerée de soupe trop chaude. Mais quand parut à la porte le silencieux valet à livrée brune, M. Verloc n'avait pas bougé d'un pouce. Il était resté figé à sa place, comme s'il se fût senti entouré de pièges. Il suivit un couloir qu'éclairait un bec de gaz solitaire, gravit un escalier en spirale et déboucha dans un corridor vitré, clair et gai, au premier étage. Le valet de pied qui le conduisait ouvrit une porte et s'effaça. C'était une large pièce à trois fenêtres. M. Verloc sentit sous ses pieds une moelleuse carpette. Assis dans un fauteuil spacieux devant un énorme bureau d'acajou, un homme jeune, la figure pleine et rasée, disait en français au conseiller qui se retirait, les papiers à la main, « Vous avez parfaitement raison, mon cher. Il est gras, l'animal. » M. Vladimir, premier secrétaire, avait une réputation de causeur agréable, et il était fort recherché dans les milieux mondains. Son genre d'esprit consistait à découvrir des rapports comiques entre des idées disparates, et quand il était lancé dans cette voie, il s'asseyait sur le bord de son siège, la main gauche levée comme s'il tenait entre le pouce et l'index la figuration des plaisanteries qu'il débitait, cependant que son visage tout rond, tout rose et imberbe exprimait une perplexité enjouée. Mais il n'y avait aucune trace d'enjouement ni de perplexité dans la façon dont il considéra M. Verloc. Renversé au fond de son fauteuil, les coudes appuyés sur les bras du meuble, une jambe croisée sur un de ses genoux, il aurait fait penser, avec ses joues fraîches et potelées, à quelque bébé anormal qui ne s'en laisserait imposer par personne. « Vous comprenez le français, je suppose. » M. Verloc fit une brève affirmation qui l'accompagna d'une inclinaison en avant de toute la masse de sa personne. Il s'arrêta au milieu du tapis, la canne et le chapeau d'une main, l'autre inerte à son côté, murmurant confusément, au fond de son gosier, quelque chose à propos de son service militaire fait en France dans l'artillerie. Sur quoi M. Vladimir, avec une insouciance dédaigneuse, changea de langue et se mit à s'exprimer dans l'anglais le plus pur, sans la moindre trace d'accent étranger. « Ah oui, c'est vrai. Voyons, combien vous a rapporté la communication du dessin figurant le verrou de culasse perfectionné de leur nouvelle pièce de campagne ?»« 5 ans de réclusion, » riposta inopinément M. Verloc, sans manifester la moindre gêne. « Vous vous en êtes tiré à bon compte. Et en tout cas, vous les aviez bien mérités pour vous être laissé pincer. Qu'est-ce qui vous a poussé dans ce genre d'entreprise, hein ?» M. Verloc, de sa voix sourde, parla de jeunesse, d'une inclination fatale pour une indigne « Ah ah, cherchez la femme !» daigna interrompre M. Vladimir, moins sec, mais sans affabilité. Il y avait même un accent de blâme dans sa condescendance. « Depuis quand êtes-vous au service de l'ambassade ?»« J'y suis arrivé en même temps que feu le baron Stott-Wartenheim, » répondit M. Verloc, prenant un air de circonstance pour déplorer la perte du défunt diplomate. Ce jeu de physionomie ne fut pas perdu pour le premier secrétaire. « Ah, avec le baron, bien. Et qu'avez-vous à arguer pour votre défense ?» M. Verloc répliqua, non sans surprise, qu'il ne venait point pour se défendre. Il avait été convoqué par lettre, et il plongea une main empressée dans la poche de côté de son pardessus. Mais devant le regard railleur fixé sur lui, il jugea inutile de produire le papier. « Voyons, reprit M. Vladimir, impitoyable. « À quoi pensez-vous de vous relâcher pareillement? Vous n'avez certes pas le physique de l'emploi. Vous, un membre affamé du prolétariat? Jamais. Vous, un socialiste à tout craint, un anarchiste? Lequel des deux ?»« Anarchiste, » articula d'une voix faible M. Verloc. « Pure blague, » prononça M. Vladimir sans élever le ton. Le père Wumt lui-même s'en aperçoit. Cela saute aux yeux. Pour moi, je trouve vos services piteux. Vous êtes donc entré en relation avec nous en subtilisant les dessins du canon français, et vous vous êtes fait prendre. C'est cela qui a dû être agréable pour notre gouvernement. Vous ne paraissez guère adroit. M. Verloc essaya de se disculper. Comme j'ai eu l'occasion de le mentionner tout à l'heure, une malheureuse inclination... Ah oui, la femme fatale! Monsieur Vladimir éleva une main blanche et potelée. « Elle a empoché l'argent, puis elle vous a dénoncé, hein ?» La mine dolente de Monsieur Verloc et un abandon subit de toute sa personne confessèrent que telle était la triste vérité. Monsieur Vladimir, un pied en travers de son genou, saisit d'une main sa cheville, laissant voir une fine chaussette en soie bleu foncé. « Vous voyez, maladresse sur maladresse. Seriez-vous susceptible, par hasard ?» Monsieur Verloc donna à entendre, en un murmure guttural et voilé, qu'il avait cessé d'être jeune. « Oh, la susceptibilité est un défaut que l'âge ne guérit pas !» opina Monsieur Vladimir avec une familiarité de mauvais augure. « Mais non, vous êtes beaucoup trop gros pour être sentimental. La vérité toute nue, je vais vous la dire, vous êtes un paresseux. Depuis combien de temps émargez-vous donc à l'ambassade ?»« Depuis 11 ans, répondit Monsieur Verloc, après une hésitation maussade. « J'ai été chargé de plusieurs missions à Londres du temps où Son Excellence le baron de Stott-Wartenheim était encore ambassadeur à Paris. Plus tard, suivant les instructions de Son Excellence, je m'établis à Londres. Je suis anglais. »«
Vous êtes anglais, vraiment ?
Comment cela ? Sujet britannique né en Angleterre. Mais mon père était français, c'est pourquoi, inutile de vous expliquer. Je vois que vous auriez pu être légalement maréchal de France et membre du Parlement anglais. Auquel cas vous auriez vraiment pu rendre quelques services à notre ambassade. » Cette facétie amena comme un vague sourire sur les lèvres de Monsieur Verloc. Monsieur Vladimir, lui, garda la plus imperturbable gravité. « Malheureusement, je le répète, vous êtes un paresseux. Vous ne savez pas profiter des circonstances. Du temps du baron Stott-Wartenheim, il y avait à l'ambassade un tas d'écervelés. Ce sont eux qui furent la cause de l'opinion fausse que se firent les gens de votre sorte sur le caractère du service secret. Il est de mon devoir de corriger cette erreur en vous exposant ce que le service secret n'est pas, et il n'est pas une institution philanthropique. Si je vous ai convoqué ici, c'est à dessein de vous en informer. » Monsieur Vladimir observa sur les traits de Monsieur Verloc une feinte expression d'étonnement. Il eut un sourire sarcastique. « Je vois que vous me comprenez parfaitement. Vous avez, je l'admets, assez d'intelligence pour faire votre besogne. Mais ce que nous voulons maintenant, c'est de l'activité. De l'activité, vous m'entendez ?» Monsieur Vladimir souligna ce dernier mot en allongeant sur le bord de son bureau le long index de sa main blanche. Toute trace d'enrouement disparut de la voix de Monsieur Verloc. Sa grosse nuque devint cramoisie au-dessus du collet de velours de son pardessus. Ses lèvres se crispèrent, puis s'ouvrirent, toutes grandes, livrant passage aux accents oratoires de sa basse profonde et claire. « Si vous voulez avoir la bonté de jeter les yeux sur mon rapport, vous y verrez qu'il y a de cela 3 mois, à l'occasion du voyage que fit à Paris le grand-duc Romuald, j'ai fourni un avertissement qui fut télégraphié d'ici à la police française. Et ta-ta-ta !» interrompit M. Vladimir en fronçant le sourcil. La police française n'eut que faire de votre avertissement. Ne braillez pas ainsi, je ne suis pas sourd. » Subitement, très humble, M. Verloc protesta d'un oubli. Sa voix, également fameuse dans les réunions en plein air et dans les assemblées que tenaient les travailleurs sous de vastes coupoles, avait contribué à établir sa réputation de compagnon convaincu. Elle inspirait confiance en ses principes. Dans les situations critiques, c'est toujours à lui que les meneurs donnaient la parole, ajouta-t-il. Il n'y avait pas de tapage que ses éclats de voix ne pussent surmonter. Et il se mit en devoir de démontrer la vérité de cette assertion. « Permettez-moi. » Le front baissé, sans lever les yeux, il traversa la pièce de son pas rapide et pesant. Arrivé près d'une des fenêtres à espagnolette, comme cédant à une impulsion subite, il l'entr'ouvrit. Saisi d'étonnement, M. Vladimir bondit du fond de son fauteuil, et, regardant par-dessus son épaule, il aperçut au dehors, au-delà de la cour de l'ambassade et à bonne distance de la grande porte, le large dos d'un policeman qui contemplait paresseusement un bébé qu'on promenait dans une luxueuse petite voiture par les allées du square. « Constable !» prononça M. Verloc, sans plus d'effort que s'il chuchotait. Et M. Vladimir éclata de rire en voyant le policeman tournoyer, comme s'il avait été piqué par un instrument aigu. M. Verloc referma tranquillement la fenêtre et revint au milieu de la pièce. Avec une voix pareille, dit-il, reprenant son ton enroué, « il est tout naturel que j'inspire confiance. De plus, je sais m'en servir. » Monsieur Vladimir, tout en rajustant sa cravate, l'observait dans la glace de la cheminée. « Je ne conteste pas que vous connaissiez par cœur le jargon révolutionnaire. Vox et... Vous n'avez jamais appris le latin ?»«
Non, » grogna Monsieur Verloc. « Vous n'allez pas exiger que je le sache. J'appartiens à l'innombrable classe des ignorants. Qui est-ce qui sait le latin ? Une malheureuse centaine d'imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d'affaire tout seuls. »
Pendant une demi-minute, M. Vladimir étudia dans la glace le profil charnu du ventripotent personnage auquel il tournait le dos. Cette position lui offrait l'avantage de voir en même temps sa propre figure, ronde et frais rasée, avec des lèvres minces et sinueuses, bien faites pour l'émission de ses spirituelles saillies qui lui avaient valu ses succès mondains. Son examen fini, il se leva et s'avança d'un pas si délibéré que les bouts de son nœud de cravate à l'ancienne mode semblèrent se hérisser, menaçants. Le geste fut si impétueux que M. Verloc, lui lançant un regard oblique, se replia sur lui-même.
« Ah ah ! Vous vous permettez d'être impudent !» gronda M. Vladimir avec une intonation gutturale bizarre qui n'était ni anglaise ni même européenne et qui surprit même M. Verloc, pourtant un familier des bouges cosmopolites.
« Vous osez ! Eh bien, je m'en vais vous parler en bon anglais. La voix ne suffit pas. Nous n'avons que faire de votre voix. Ce n'est pas une voix qu'il nous faut. Ce sont des actes, des actes, des actes !»
Il décochait ses paroles avec une sorte de retenue féroce, en pleine figure de son interlocuteur.
« Inutile d'essayer avec moi vos grands airs d'intimidation pour Moujik !» se rebiffa M. Verloc, les yeux fixés sur le tapis.
À quoi le premier secrétaire, avec un sourire moqueur au-dessus des bouts hérissés de sa cravate, reprit en français
« Vous vous donnez comme agent provocateur. Le propre d'un agent provocateur est de provoquer. Autant que je puis en juger par le dossier que j'ai là, vous n'avez rien fait durant 3 années pour gagner votre argent. »
« Rien ? » s'écria M. Verloc sans bouger, sans même lever les yeux, mais d'un ton qui montrait qu'il se sentait atteint.
« J'ai à diverses reprises prévenu ce qui aurait pu... »«
Oui, oui, il court par ici un proverbe qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir, »
interrompit M. Vladimir, se carrant de nouveau dans son fauteuil. « D'une manière générale, c'est stupide. On n'en finit jamais de prévenir. Mais c'est caractéristique. On n'aime pas le définitif dans ce pays-ci. Ne soyez pas trop anglais. Et dans le cas présent, ne soyez pas absurde. Le mal existe déjà. Nous ne voulons pas prévenir, nous voulons guérir. » Il s'arrêta et, se tournant vers son bureau, se mit à feuilleter des papiers qui s'y trouvaient. Sa voix prit une autre intonation, celle d'une discussion d'affaires. Sans regarder M. Verloc, il reprit « Vous êtes sans doute au courant de ce qui se passe à la conférence internationale assemblée à Milan. » M. Verloc insinua d'un accent piqué qu'il avait l'habitude de lire les journaux. À une nouvelle question, il répondit qu'il se flattait de comprendre ce qu'il lisait. À quoi M. Vladimir, adressant un léger sourire au document qu'il compulsait, observa « Et tant que ce n'est pas du latin, je suppose. »
« Ou du chinois, » renchérit M. Verloc.
« Certaines élucubrations de vos amis les révolutionnaires sont écrites en un charabia tout aussi incompréhensible que du chinois. »
Et M. Vladimir lui jeta dédaigneusement un texte imprimé sur du papier grisâtre.
« Qu'est-ce que c'est que tous ces torchons marqués de l'entête happés avec un marteau, une plume et une torche entrelacées ? Qu'est-ce que ça veut dire, happé ?»
M. Verloc s'approcha du bureau. « L'avenir du prolétariat. » « C'est le titre d'une société, expliqua-t-il lourdement planté à côté du fauteuil, une société non anarchiste en principe, mais ouverte à toutes les formes de l'idée révolutionnaire. En faites-vous partie ? Je suis l'un des vice-présidents. »
Le premier secrétaire leva les yeux vers lui.
« Alors, vous devriez avoir honte de vous-même, déclara-t-il incisif. Votre société n'est donc pas capable d'autre chose que d'imprimer ces bourdes prophétiques en caractère fatigué sur du papier malpropre, hein ? Pourquoi ne faites-vous rien ? Écoutez, c'est moi qui prends désormais la direction du service, et je vous dirai nettement qu'il faut que vous méritiez le salaire que vous touchez. Le bon vieux temps de Stott Wartenheim n'est plus. Pas de travail, pas d'argent. »
M. Verloc sentit ses jambes se dérober sous lui.
Il recula d'un pas et se moucha bruyamment. Il était véritablement très alarmé. Le soleil, couleur de rouille, sortant vainqueur de la lutte contre la brume de l'atmosphère londonienne, risquait un tiède rayon dans le cabinet du premier secrétaire. Le silence qui régnait dans la pièce permit à M. Verloc d'entendre le léger bourdonnement d'une mouche contre la vitre d'une fenêtre, la première mouche de l'année, annonçant mieux qu'un vol d'hirondelles l'approche du printemps. L'affairement inutile de cette minuscule énergie agaça ce gros homme dont on menaçait les habitudes indolentes. Pendant cet intervalle, M. Vladimir formula dans son esprit une série de remarques peu avantageuses sur la physionomie et l'aspect de M. Verloc. Le gaillard lui parut vulgaire, massif et inintelligent à l'excès. Il ressemblait extraordinairement à un entrepreneur de plomberie venu pour présenter son mémoire. De ses excursions occasionnelles dans le domaine de l'humour américain, le premier secrétaire avait rapporté une opinion très spéciale sur cette classe d'artisans qui personnifiait à ses yeux la mauvaise foi, la paresse et l'incompétence. C'était donc là l'homme de confiance, le fameux agent secret, si secret qu'on ne le désignait jamais autrement que par le symbole Delta dans la correspondance officielle, semi-officielle et confidentielle du feu baron Stott Wartenheim, le célèbre agent Delta dont les avis avaient le pouvoir de changer le programme et la date des tournées royales, impériales et grand-ducales, parfois même de les ajourner tout à fait. M. Vladimir s'abandonna en dedans de lui-même à un accès de folle hilarité, aux dépens de sa propre surprise qu'il trouvait naïve, mais surtout aux dépens du baron Stott Wartenheim de regretter mémoire. Feu son Excellence, que la faveur de son impérial maître avait maintenu ambassadeur contre le gré de plusieurs ministres des Affaires étrangères, avait joui de son vivant d'une réputation de crédulité apeurée. Le baron était hanté par le fantôme de la révolution sociale. Il imaginait être un diplomate choisi par une dispensation spéciale pour assister à l'écroulement de la diplomatie dans un effroyable bouleversement démocratique qui, à son estime, ne pouvait que précéder de fort près la fin du monde. Ces dépêches éplorées et prophétiques avaient été, pendant de longues années, la joie des chancelleries étrangères. On raconte que, recevant à son lit de mort son impérial ami et maître, il s'était écrié « Malheureuse Europe, tu périras par la démence morale de tes enfants ». Un tel homme devait être la victime toute désignée du premier intrigant venu. Et M. Vladimir, à cette pensée, sourit vaguement à M. Verloc. « Vous devez vénérer la mémoire du baron Stott Wartenheim ». La physionomie de M. Verloc revêtit l'expression de la plus vive contrariété. « Permettez-moi de vous faire remarquer, dit-il, que je suis ici par ordre péremptoire. Je n'y étais venu que 2 fois depuis 11 ans, et jamais certainement à 11 heures du matin. Il n'est guère prudent de me mander de la sorte. Je cours le risque d'être vu, ce qui ne serait pas amusant pour moi. » M. Vladimir haussa les épaules. « Cela pourrait être préjudiciable à l'utilité de mes services, » continua Verloc s'échauffant. « Ça, c'est votre affaire, » fit l'autre cyniquement. Quand vous ne serez plus utile, » M. Vladimir s'interrompit, cherchant une expression suffisamment colorée pour peindre exactement sa pensée, et, l'ayant trouvée presque aussitôt, il reprit avec une féroce grimace de ses dents blanches, « Nous vous ficherons à la porte. » Cette fois encore, M. Verloc eut besoin de toutes ses forces pour réagir contre cette sensation d'affaissement qui lui courut au long des jambes et qui jadis inspira cette trouvaille à certains pauvres diables. Je sentis mon cœur descendre jusque dans mes bottes. Mais, conscient de cette défaillance, il releva bravement la tête. M. Vladimir soutint avec une parfaite sérénité le regard interrogateur de M. Verloc. « Nous voulons administrer un tonique à la conférence de Milan, » expliqua-t-il allègrement. « Ces délibérations à propos d'une action internationale tendant à la suppression des crimes politiques sont ineptes. L'Angleterre a besoin, elle aussi, d'un coup de fouet. Ce pays est absurde avec ses idées sentimentales sur la liberté individuelle. Il est intolérable de penser que vos amis n'ont qu'à se réfugier ici pour être à l'abri de « comme cela, je les ai tous sous ma surveillance directe », objecta le timbre enroué de M. Verloc. Il serait plus sûr de les tenir tous sous clé. Il faut que l'Angleterre se rende compte de cette nécessité. Sa bourgeoisie imbécile se fait elle-même complice de ceux qui ne visent qu'à la chasser de ses demeures et la faire crever de faim dans le fossé. Elle détient encore le pouvoir politique. Il lui faut le bon sens de s'en servir pour sa conservation. Vous êtes aussi de cet avis, je suppose, que les classes moyennes sont stupides. M. Verloc en convainc d'une rauque approbation. Elles n'ont pas d'imagination. Une vanité idiote les aveugle. Ce qu'il leur faudrait maintenant, c'est une bonne petite frayeur. C'est le vrai moment de mettre vos amis à l'œuvre. Et je vous ai mandé pour vous exposer mon idée à ce propos. M. Vladimir, en effet, exposa son plan avec une condescendance dédaigneuse, tout en faisant preuve d'une telle ignorance des visées, de l'esprit et des moyens du parti révolutionnaire, que son interlocuteur, qui l'écoutait en silence, en restait atterré. Plus qu'il n'était permis, il confondait les causes et les effets, les plus distingués propagandistes avec les impulsifs jeteurs de bombes. Il présumait une organisation là où, par la nature même des choses, il n'en pouvait pas exister. Tantôt il parlait du Parti socialiste révolutionnaire comme d'une armée parfaitement disciplinée, où les chefs donnent des ordres suprêmes, et tantôt comme de la plus indocile troupe de brigands qui ait jamais campé dans une gorge de montagne. M. Verloc essaya bien de protester, mais à peine ouvrait-il la bouche qu'une main blanche au contour délicat s'élevait pour lui imposer silence. Bientôt même, son ahurissement paralysa en lui toute tentative de protestation. Et l'effroi qui l'immobilisait lui prêtait l'apparence de l'attention la plus soutenue. Une série d'attentats, discourait tranquillement M. Vladimir, non pas seulement conçus, mais exécutés ici, non pas ailleurs, voilà ce qu'il faudrait. Vos amis pourraient mettre le feu à la moitié du continent, que cela n'influencerait pas l'opinion publique anglaise en faveur d'une législation universelle pour la répression de la propagande par le fait. Ici, ils ne veulent pas voir au-delà des murs de leur jardin. M. Verloc toussa comme s'il allait parler, mais le cœur lui manqua et il ne dit rien. Il n'est pas indispensable que ces attentats soient sanguinaires, continua M. Vladimir comme s'il allouait cette concession aux préjugés, mais il faut qu'ils soient suffisamment démonstratifs, qu'ils soient dirigés contre les édifices, par exemple. Quel est le fétiche du moment pour toute la bourgeoisie? M. Verloc écarta les bras en levant les épaules. Vous êtes trop paresseux pour prendre la peine de réfléchir, n'est-ce pas? Ricana M. Vladimir pour commenter ce geste. Suivez-moi alors. Le fétiche du jour n'est ni la royauté ni la religion. Il faut donc laisser en paix le palais et l'église. Comprenez-vous? La stupéfaction et la colère poussèrent M. Verloc à se risquer jusqu'au badinage. Parfaitement. Que penseriez-vous des ambassades? D'une série d'attentats contre les diverses ambassades, par exemple. Vous savez être facétieux à ce que je vois, articula le premier secrétaire d'un ton de glacial dédain. Mais ce n'est ni l'heure ni l'endroit. Il serait infiniment plus sage à vous de me suivre avec attention, et comme on exige de vous de produire des faits et non des racontars à dormir debout, vous feriez beaucoup mieux de tâcher de tirer profit de ce que je prends la peine de vous démontrer. Je continue. Le sacro-saint fétiche du jour, c'est la science. Pourquoi ne pousseriez-vous pas quelqu'un de vos amis à marcher contre cette idole à figure de bois? Ne fait-elle donc pas partie de ces institutions qui doivent disparaître avant que puisse se réaliser la paix? M. Verloc ne dit mot. Il évitait d'ouvrir la bouche, de peur qu'un gémissement ne lui échappât. Voilà ce que vous devriez essayer. Un attentat dirigé contre une tête couronnée ou un président, c'est sensationnel, si l'on veut, mais plus autant qu'autrefois. C'est entré dans la conception générale de l'existence de tous les chefs d'État. On s'y attend comme à une chose infaillible, surtout depuis que tant de présidents ont été assassinés. Prenons maintenant un attentat contre, mettons, une église. La chose à première vue paraît horrible. Eh bien, croyez-moi, elle ne fera pas autant d'effet que pourrait le croire un esprit moyen. Si révolutionnaire ou anarchiste qu'en soit l'origine, il se trouvera nombre d'imbéciles pour y voir une manifestation antireligieuse, ce qui retirerait beaucoup de la signification particulière que nous voulons prêter à l'action. Un attentat meurtrier contre un restaurant ou un théâtre ne servirait pas davantage. On y verrait l'exaspération d'un affamé, un acte de vengeance individuelle. Tout cela est usé. Les journaux ont des explications rassurantes toutes prêtes pour ce genre d'exploit. Je veux, de mon point de vue, vous énoncer la philosophie de la bombe. À votre point de vue, vous prétendez avoir servi notre cause depuis 11 ans. J'essaie d'être précis et clair. Les sens de la classe que vous attaquez sont émoussés. La propriété lui semble une chose indestructible. Il ne faut pas compter, de sa part, sur une émotion de longue durée, soit de pitié, soit de frayeur. Pour influencer l'opinion publique, aujourd'hui, un attentat à la bombe doit avoir une autre portée, dépasser toute intention de vengeance ou de terrorisme. Il faut qu'il soit purement destructif. Il doit être cela, rien que cela. Vous autres anarchistes, vous devriez manifester clairement votre absolue détermination de balayer tous les ouvrages de la société. Mais comment faire entrer cette notion inconcevablement absurde dans la tête des classes moyennes, de façon que le doute soit impossible? Voilà la question. En dirigeant vos coups contre quelque chose qui soit en dehors des passions et des conflits ordinaires de l'humanité, voilà la réponse. Dans ce sens, il y a l'art. Une bombe dans la National Gallery ferait quelque bruit. Mais ce ne serait pas assez sérieux. L'art n'a jamais été le fétiche de la bourgeoisie. C'est comme si vous cassiez quelques vitres sur le derrière d'une maison. Tandis que si vous voulez vraiment secouer le propriétaire, il faut au moins essayer de lui démolir son toit. Sans doute on pousserait quelques cris, mais qui donc? Les artistes, les critiques d'art, gens sans importance. Personne ne s'inquiète de ce qu'ils peuvent dire. Il y a mieux, le savoir, la science. Tout imbécile, à la tête d'un quelconque revenu, met sa confiance là-dedans. Il ne sait pas pourquoi, mais il y croit. Voilà le fétiche intangible. Tous ces sacrés professeurs sont radicaux dans l'âme. Qu'ils apprennent donc que leur idole, elle aussi, devra disparaître pour faire place à l'avenir du prolétariat. Le hurlement de tous ces intellectuels crétins fera avancer d'un grand pas les travaux du Congrès de Milan. Ils empliront les journaux de leurs doléances. Leur indignation ne sera jamais suspectée, aucun intérêt matériel n'étant en jeu, et tous les égoïsmes de la classe visée s'en alarmeront. Ils sont convaincus que la science est la base mystérieuse de leur prospérité matérielle, et l'absurde férocité d'une telle démonstration les touchera plus profondément que la mutilation de toute une rue ou de tout un théâtre rempli de leurs semblables. De cela, ils peuvent toujours dire « Oh, ce n'est que de la haine sociale ». Mais comment juger un acte de vandalisme absurde au point de rester incompréhensible, inexplicable, presque inconcevable? Un acte de fou? La folie en réalité est vraiment terrifiante, attendu que vous ne pouvez en venir à bout ni par la menace, ni par la persuasion, ni par la corruption. En outre, je suis un homme civilisé. Je ne songerai jamais à vous demander d'organiser une simple boucherie, même si j'en devais attendre les meilleurs résultats. Du reste, aucune boucherie ne me donnerait le résultat que je poursuis. Le meurtre est partout, c'est presque une institution. La démonstration doit donc se faire contre le savoir, contre la science. Mais toutes les sciences ne s'y prêtent pas. Il faut que l'attentat ait la stupidité d'un blasphème gratuit. Puisque les bombes sont vos moyens d'expression, le chef-d'œuvre serait d'en lancer une dans les mathématiques pures. Malheureusement, c'est impossible. J'essaie de faire votre éducation. Je vous expose la haute philosophie de votre utilité et vous suggère quelques arguments profitables. L'application pratique de mon enseignement vous concerne presque exclusivement. Néanmoins, dès le moment où j'ai entrepris de vous entretenir de ces questions, je me suis préoccupé de leur aspect pratique. Si nous portions un coup à l'astronomie, que pensez-vous de cette idée? Monsieur Verloc, à côté du fauteuil, gardait une immobilité voisine du coma. Il paraissait tomber dans un état de prostration qu'interrompaient seulement de légers mouvements convulsifs, comme en ont les chiens domestiques qui rêvent, couchés devant l'âtre. Ce fut en effet dans un pénible grognement de chien qu'il répéta « l'astronomie ». Il n'était pas encore remis de la difficulté qu'il avait éprouvée à suivre le débit rapide et le verbe incisif de M. Vladimir. Cela dépassait sa faculté d'assimilation et l'irritait fort. Son dépit même se compliquait d'incrédulité. Tout à coup, il eut la pensée que tout ce verbiage n'était qu'une mystification. M. Vladimir montrait ses dents blanches en un sourire qui creusait les fossettes dans sa face rebondie, incliné en une pose satisfaite au-dessus des pointes frémissantes de sa cravate. Le préféré des milieux intellectuels féminins retrouvait la posture favorite qu'il prenait pour émettre de spirituelles saillies. Assis sur le bord du fauteuil, sa main blanche tendue, il paraissait serrer délicatement entre le pouce et l'index toute la subtilité de sa proposition. Peut-on rien imaginer de mieux? Un tel attentat, tout en ménageant le plus possible la vie humaine, offrirait tout de même le spectacle alarmant d'une imbécilité féroce. Je défie les journalistes de faire croire à leur public qu'un membre quelconque du prolétariat puisse avoir un grief personnel contre l'astronomie. La fin elle-même serait difficilement invoquée ici, hein, sans parler d'autres avantages. Tout l'univers civilisé a entendu parler de Greenwich. Le moindre cireur de bottes en a une vague idée, n'est-il pas vrai? Le visage de M. Vladimir, bien connu dans la haute société pour son expression de spirituelle urbanité, rayonna d'un cynique contentement de soi, dont auraient été grandement surprises les dames qu'ensorcelait le charme exquis de son esprit. Oui, l'explosion du premier méridien soulèvera l'exécration universelle. Rude besogne, articula M. Verloc, ne trouvant que ce commentaire. Comment, n'avez-vous pas toute la bande sous la main, le dessus du panier? Le fameux Yunt est dans nos murs. Je le vois se promener du côté de Piccadilly presque tous les jours avec sa pèlerine verte. Et Michaelis, l'apôtre libéré, vous ne me direz pas que vous ignorez où il est. Si vous ne le savez pas, je peux vous le dire. M. Vladimir ajouta d'un ton menaçant, « Si vous vous imaginez que vous êtes le seul sur la liste des fonds secrets, vous vous trompez. » À cette insinuation toute gratuite, M. Verloc eut un léger mouvement du pied. « Et toute la bande de Lausanne? Ne se sont-ils pas réfugiés ici, aussitôt qu'il fut question du congrès de Milan? Quel stupide pays que celui-ci » conclut M. Vladimir. « Cela coûtera cher, objecta M. Verloc par une sorte d'instinct. « Vous toucherez vos gages tous les mois et rien de plus, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. Et s'il n'arrive rien à bref délai, vous ne toucherez même plus vos gages. Quelle est votre occupation ostensible? De quoi suppose-t-on que vous vivez? Je tiens une boutique. Une boutique? Quelle sorte de boutique? Papeterie, journaux, ma femme. Votre quoi? Interrompit M. Vladimir avec un accent guttural d'asiatique. Ma femme, répéta M. Verloc en élevant un peu le ton sourd de sa voix. Je suis marié. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? S'écria l'autre avec un étonnement qui n'avait rien de simulé. Marié? Et anarchiste avéré encore. Quelle stupidité! Mais ce n'est qu'une façon de parler, je suppose. Les anarchistes ne se marient pas. Tout le monde sait cela. Ils ne peuvent pas, ce serait de l'apostasie. Ma femme n'est pas anarchiste, marmotta M. Verloc. D'ailleurs, cela ne regarde que moi. C'est ce qui vous trompe, reprit aigrement M. Vladimir. Je commence à être convaincu que vous n'êtes pas du tout l'homme qu'il nous faut pour l'office qui vous a été confié. Vous devez vous être complètement discrédité auprès des vôtres par votre mariage. N'auriez-vous donc pas pu vous arranger autrement? Le voilà bien, le vertueux attachement, hein? D'attachement en attachement, votre utilité finit par devenir problématique. M. Verloc se contenta d'expirer violemment tout l'air emmagasiné dans ses joues. Il s'était armé de patience, mais il se sentait à bout. Le premier secrétaire se fit bref, détaché, lointain. « Vous pouvez vous retirer, dit-il. Il s'agit de provoquer un attentat à la dynamite. Je vous donne un mois. Le Congrès a suspendu ses séances. Avant qu'elles soient reprises, il faut qu'il se passe quelque chose ici, sans quoi nous cesserons tout rapport avec vous. » Il changea de ton encore une fois avec une facilité défiant tout principe. « Réfléchissez à ma philosophie, monsieur. Monsieur Verloc, » ajouta-t-il avec une sorte de condescendance moqueuse, en agitant ses mains vers la porte. « Attaquez-vous au premier méridien. Vous ne connaissez pas aussi bien que moi les classes moyennes. Leur sensibilité est émoussée. Le premier méridien. » Rien de mieux, et je dirais même rien de plus simple. Il s'était levé à ces mots, et avec un plissement sardonique de ses lèvres minces, il regarda dans la glace de la cheminée l'agent se retourner et sortir pesamment de la pièce, son chapeau et sa canne à la main. La porte se referma. Le valet de pied apparut tout à coup dans le corridor, conduisit M. Verloc par un chemin différent et le fit sortir par une petite porte ouvrant sur un angle de la cour. Le gardien qui surveillait la grande grille ignora complètement cette sortie et, comme dans un rêve irrité, M. Verloc reprit en sens inverse le pèlerinage du matin. Son détachement du monde matériel était si complet qu'encore que son enveloppe mortelle ne se fût pas hâtée à l'excès le long des rues, cette partie de lui-même à laquelle il serait inexcusable de refuser l'immortalité se trouva tout à coup à la porte de la boutique, comme si elle avait été emportée de l'ouest à l'est sur les ailes d'un vent de tempête. Marchant droit au comptoir, il se laissa tomber sur une chaise. Personne ne vint troubler sa solitude. Stevie, affublé d'un tablier vert, balayait et époussetait le premier étage, absorbé consciencieusement dans sa besogne comme dans un agréable passe-temps. Madame Verloc, avertie à la cuisine par le tintement de la sonnette fêlée, s'était avancée jusqu'à la porte vitrée du fond et, soulevant un coin de rideau, elle jeta un regard dans la boutique obscure. À la vue de son mari, profilant son ombre énorme, affalée sur la chaise et chapeau rejeté très en arrière, elle revint tout de suite à son fourneau. Une heure plus tard, elle retira le tablier vert de son frère Stevie et lui enjoignit de se laver les mains et la figure, du même ton impératif qu'elle prenait pour intimer cet ordre depuis près de 15 ans, autrement dit, depuis qu'elle avait cessé d'opérer personnellement ce nettoyage. Bientôt, elle dut distraire un regard de ses préparatifs culinaires pour l'inspection de la figure et des mains que Stevie soumettait à son approbation, avec un air d'assurance qui dissimulait un reste de persistante anxiété. Jadis, la colère paternelle était la sanction suprême de cette cérémonie, mais la placidité de M. Verloc à l'égard des détails domestiques aurait rendu incroyable, même pour la nervosité du pauvre Stevie, toute menace de colère de sa part. Il était simplement entendu que M. Verloc aurait été inexprimablement peiné et choqué par le moindre manquement à la propreté aux heures des repas. À la mort de son père, Winnie trouva une grande consolation dans le fait de ne plus avoir à trembler pour l'enfant disgracié. Elle ne pouvait supporter de le voir molesté. Toute violence à son égard l'affolait. Toute petite, pour défendre son frère, elle avait souvent, les yeux flamboyants, affronté l'irascible gargotier. Mais rien n'eût laissé supposer aujourd'hui qu'elle pût être capable du moindre accès de violence. Le déjeuner était prêt, le couvert mis dans le parloir. Du pied de l'escalier, Madame Verloc appela « Maman !» Puis, ouvrant la porte vitrée de la boutique, elle dit posément « Adolphe !» M. Verloc n'avait pas changé de posture. Il n'avait apparemment pas, depuis 1 heure et demie, remué un membre. Il se leva pesamment, vint prendre place à table avec son pardessus et son chapeau, sans prononcer un mot. Son mutisme n'avait rien d'inaccoutumé. Dans ce ménage tapis, au fond d'une rue sordide, que visitait rarement le soleil et qu'avitaillait de louches ressources. Cependant, l'habituelle taciturnité de M. Verloc était si visiblement aggravée ce jour-là que les deux femmes en furent frappées. Elles prirent place elles-mêmes en silence, veillant à ce que Stevie ne fût pas pris d'une de ces crises intempestives de loquacité. Assis en face de M. Verloc, il demeurait placide et sage, écarquillant des yeux vides. La préoccupation constante des deux femmes était de l'empêcher de se montrer en rien répréhensible aux yeux du maître de la maison. Ce pauvre garçon, comme elle le désignait entre elles, avait toujours été une source de ce genre de tourment depuis sa naissance. L'humiliation que ressentait le gargotier d'avoir pour fils un être aussi mal doué se traduisit par des brutalités, car il était fort sensible et sa déception d'homme et de père était parfaitement sincère. Par la suite, il fallut empêcher Stevie de tracasser les clients de la pension, personnage capricieux que la moindre anicroche contrarie, sans compter le souci rongeur que causait la pensée de son avenir. Des visions d'hospice d'incurables avaient obsédé la vieille mère dans la salle en sous-sol de la place Belgravia. « Si tu n'avais pas trouvé un aussi bon mari, répétait-elle souvent à sa fille, je me demande ce que serait devenu ce pauvre garçon. » M. Verloc n'accordait guère plus d'attention à Stevie qu'un mari qui ne raffole pas particulièrement des animaux n'en accorde au chat favori de sa femme. Et cette attention, superficielle et bienveillante, était exactement du même caractère.
Du reste, les deux femmes s'avouaient qu'on ne pouvait raisonnablement s'attendre à mieux, et c'était assez pour gagner à M. Verloc la déférente gratitude de la vieille dame. Dans les premiers temps, rendu sceptique par les épreuves d'une existence entièrement dépourvue d'agrément, il lui arrivait d'interroger sa fille avec anxiété. « Ne crois-tu pas, ma chère, que M. Verloc commence à se fatiguer de voir Stevie autour de lui ?» À quoi Winnie répondait généralement par un hochement de tête. Une fois pourtant, elle répliqua avec une sorte de pétulance menaçante « Il faudrait qu'il fût fatigué de moi, d'abord. » Un long silence accueillit cette réponse. La mère, les pieds appuyés sur un tabouret, semblait s'efforcer de saisir le fond de cette observation dont la profondeur féminine l'ahurissait. Elle n'avait jamais bien compris pourquoi Winnie épousa M. Verloc. Mariage très sensé, puisque les choses avaient bien tourné. Mais sa fille aurait pu prétendre à un époux mieux assorti. Il avait été question d'un jeune homme rangé, fils unique d'un boucher d'une rue voisine, et qui secondait activement son père. Très évidemment, il plaisait à Winnie et se montrait assidu auprès d'elle. Plusieurs fois même, il la mena au théâtre. Sans doute, il n'était que l'employé de son père, mais la boutique était très florissante et il pouvait espérer un avenir excellent. Puis, au moment où la mère commençait à redouter d'entendre parler de fiançailles, qu'aurait-elle fait, impotente et seule, dans cette grande maison, avec Stevie sur les bras? L'idylle prit fin tout à coup, et Winnie vaqua à ses occupations avec un air sombre et désolé. C'est alors que survint M. Verloc, qui loua la chambre du premier étage sur le devant, et il n'avait plus été question du jeune garçon boucher. Cette arrivée fut vraiment providentielle, pensait la vieille femme.